Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à cette édition du journal de midi, heure de Kinshasa. Lutte contre Ebola en Ituri. Pas de transport en commun depuis une semaine entre Bunia, Mungwalu et Aro. Décision prise par les transporteurs eux-mêmes pour réduire la propagation du virus. Le territoire d'Aro est désormais aussi touché par l'épidémie d'Ebola avec 7 cas confirmés. L'église catholique de Kananga en pleine zone de turbulence, au cœur de la discorde, la prise de position de la CENCO contre tout changement de la constitution. Certains prêtres fidèles contestent cette décision et face à cette polémique, le vicariat général de l'archidiocèse de Kananga invite les chrétiens à préserver l'unité autour de leurs évêques. Comme invité, Gislain Mupenzi Kamondo, directeur exécutif de Congo Agri. Sa coopérative vient d'organiser à Goma la 3e édition de la conférence et du concours qualité dit Best of Congo Coopérative pour promouvoir un café et un cacao de bonne qualité. Madame, Monsieur, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Le transport en commun entre Bunia, Mungwalu et Aru est suspendu momentanément. Cela fait une semaine que cela dure. Il s'agit d'une décision prise par les transporteurs après une campagne de sensibilisation menée par les acteurs de la société civile. Le but est de limiter la propagation de l'épidémie d'Ebola. Le territoire d'Aru compte déjà 7 cas confirmés, dont 4 décès. Les leaders communautaires appellent les autres territoires de la province à suivre cet exemple afin de renforcer la lutte contre l'épidémie. Isaac Rimo.
Le territoire d'Aru est désormais touché par l'épidémie d'Ebola. Selon les autorités sanitaires, 7 cas confirmés y ont été enregistrés par les équipes des ripostes. 4 cas ont été recensés dans la cité d'Aru, dont un décès, tandis que 3 autres ont été signalés à Aoumba, où tous les patients sont décédés. Face à cette situation préoccupante et au mouvement important des voyageurs entre Bunia, Mungwalu, épicentre de l'épidémie, et Aru, les acteurs de la société civile ont multiplié les actions de sensibilisation. Ils ont notamment rencontré les responsables des agences de transport par bus et véhicules afin de leur demander de suspendre temporairement le trafic sur ces accès routiers pour réduire les risques de propagation du virus. Depuis plus d'une semaine, cette mesure est effectivement appliquée. Le député provincial Antoine Mopepe salue cette initiative. Il appelle les autres entités de la province où l'on observe encore une certaine résistance aux mesures de riposte à suivre cet exemple afin de contribuer à contenir la propagation de l'épidémie.
Si c'est au niveau des autorités politico-administratives, une telle mesure pouvait sortir. Les autres responsables dans d'autres territoires peuvent aussi emboîter les mêmes pas et ça pourra permettre à ce que nous puissions ensemble lutter contre cette maladie.
Au rappel, les autorités ont également suspendu des vols commerciaux entre Bunia et Aru dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
L'église catholique de Kananga est en pleine zone de turbulence. Au cœur de la discorde, la prise des positions de la CENCO contre tout changement de la constitution. Certains prêtres fidèles de cette archidiocèse contestent ouvertement cette décision. Ils estiment qu'il s'agit d'une simple prise de position et non d'une décision qui s'impose à tous. Face à cette polémique, le vicariat général de l'archidiocèse de Kananga appelle au calme. Dans un message publié hier samedi, il dénonce les discours de haine sur les réseaux sociaux et invite les chrétiens à préserver l'unité autour de leurs évêques. Le point avec André Katende Ngalamudume.
Un seul cœur et une seule âme, c'est le titre du message publié par le vicariat général de l'archidiocèse de Kananga. Depuis la déclaration de la CENCO le 19 juin dernier, le climat est électrique. L'épiscopat y rejette toute révision constitutionnelle. Mais à Kananga, la pilule a du mal à passer. Certains fidèles et même des prêtres de l'archidiocèse se sont opposés publiquement à la décision des évêques. Face à cette fronde, les autorités de l'église veulent apaiser les tensions. Elles dénoncent des manipulations et des discours de haine qui enflamment les réseaux sociaux. Le vicariat appelle les fidèles à faire preuve de prudence. Il les invite à ne pas se faire entraîner par les informations qui alimentent la haine et la division. Le message réaffirme également le soutien de l'archidiocèse à son archevêque, Monseigneur Félicien Tamboué. Selon les vicaires généraux, s'il a paraphé le document de la CENCO, c'est au nom de la collégialité épiscopale. L'archidiocèse appelle les fidèles à l'apaisement, à la communion et à l'unité autour de leurs évêques. Kananga, André Katende Ngalamulume, Radio Kapi.
Et parlons de cette interdiction des manifestations et autres rassemblements publics dans la province du Haut-Katanga. Ainsi, on a décidé la mairie de Lubumbashi depuis vendredi. Dans un communiqué, elle explique que c'est pour préserver l'ordre public, la quiétude sociale ainsi que le bon usage des espaces publics. Même prise de position du côté de la mairie de Likasi, environ 120 km de Lubumbashi. De son côté, l'autorité urbaine de Kolwezi dans le Lualaba interdit, elle, la coalition de l'opposition C64 d'organiser une éventuelle marche en raison de la maladie à virus Ebola. La paix se construit aussi sur le banc de l'université. C'est dans ce cadre qu'une trentaine de jeunes leaders universitaires de Matadi ont été formés pendant 3 jours sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à l'agenda jeunesse, paix et sécurité. L'objectif est de les outiller afin qu'ils deviennent à leur tour des relais de sensibilisation dans les milieux étudiantins sur les questions de paix, de cohésion sociale et de prévention du conflit. Que retenir, Élise Gavira?
Au cours de cette session, les participants ont été formés sur les différents piliers de la résolution 2250 qui reconnaît le rôle essentiel des jeunes dans la consolidation de la paix. Caleb Mwamba, président des étudiants de l'Université libre de Matadi, partage ses impressions.
Il est vrai que la jeunesse actuelle est à la merci de plusieurs bavures, mais cela n'est pas une barrière pour nous. C'est juste un obstacle que nous allons devoir remonter parce que cette jeunesse a besoin d'un changement. Et ces changements, c'est en s'appropriant aussi de la résolution 2250.
La jeunesse est souvent présentée comme l'espoir de demain, une conviction que partage cette structure des jeunes engagés dans la promotion de la paix.
Nous représentons le 60% de la population du Congo. Nous avons cette charge-là de mener le Congo haut et fort.
Pour la formatrice Anima Tundu, il est essentiel que les jeunes s'approprient la résolution 2250 et la fassent connaître afin de mieux défendre leurs droits et contribuer activement à la construction de la paix. Ces jeunes leaders universitaires sont appelés à porter le message de la résolution 2250 dans les auditoires et au sein de leur communauté. Matadi, Elise Kavira, Radio Kapi.
Merci Elise. Nous allons en Kivu. Le calme est revenu depuis hier samedi en fin de matinée dans la ville de Beni. Après une tension observée le matin, à la base d'une altercation entre le service chargé de l'assainissement de la ville et des jeunes principalement des conducteurs de mototaxis, ces derniers refusaient de prendre part aux travaux communautaires communément appelés Salongo. Des immondices ont été dispersés sur le boulevard principal ainsi que sur plusieurs avenues du quartier commercial de Matongé, perturbant momentanément les activités. Ce comportement est condamné par plusieurs leaders de la jeunesse des Béni. Ils appellent au respect du bien public et à la préservation de l'image de la ville. André Amouli est l'un de ces leaders. Il s'est confié à Marc Marofimbo.
D'abord, nous sommes en train de décrier ça parce que c'est un comportement qui n'est pas responsable. Imaginez-vous, ce sont les jeunes qui devraient être honnêtes et responsables de leur milieu. C'est dire que voilà, je suis engagé pour essayer d'assainir le milieu dans lequel je suis. Mais ce qui se manifeste, en tout cas, ce matin, ça montre combien de fois les jeunes ne sont pas en train de voir les dangers même que nous sommes en train d'encourir. C'est une interpellation. Ce comportement, normalement, nous devons vraiment cesser avec ça. Parce que lorsque nous jetons les immondices à bord de la route, c'est nous-mêmes qui sommes en train même de détruire nos infrastructures. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler les jeunes, de comprendre que ce n'est pas seulement les autorités qui doivent s'occuper de l'environnement de leur milieu. Non, les jeunes d'ailleurs, ce sont eux qui devraient être le premier à répondre oui à la propreté, à la salubrité de leur milieu. C'est pourquoi nous demandons vraiment aux jeunes d'être responsables, de cesser avec un comportement pareil.
Notez que plusieurs acteurs communautaires appellent à privilégier le dialogue entre les autorités et les différentes couches de la population afin d'éviter la répétition de tels incidents. Rendons-nous dans le sud du territoire d'Irumu en Ituri, où la société civile alerte une fois de plus sur les massacres des civils perpétrés par des rebelles des ADF. Dans une déclaration faite hier samedi à Bunia, cette structure citoyenne demande aux nouvelles autorités provinciales de lancer sans tarder de nouvelles opérations militaires contre ces rebelles. Ces derniers commettent des atrocités contre la population, notamment sur l'axe Komanda Luna Mambada, et cela depuis plusieurs années. Martial Kizabiamongo.
Selon la société civile du sud du territoire d'Irumu, les atrocités commises par les rebelles de ZADF ont déjà coûté la vie à des milliers de personnes ces dernières années. Massacres à répétition avec enlèvement de civils, dont des femmes utilisées comme esclaves sexuels, incendies de maisons, c'est les calvaires que vivent les populations des nombreux villages de Cheferi, de Wale-Sevonkoutou, de Basili et de Banyali-Tchabi, situés sur l'axe Komanda Luna, Komanda Mambasa, Mont-Oyo, Tchabi. Kasabi ainsi que dans la région des Zungulouka. Face à ces tableaux sombres, la société civile locale demande aux autorités provinciales de maintenir la pression sur ces rebelles dont les attaques continuent d'affecter plusieurs localités du sud d'Iromou. Son président Pascal Kisezo indique que, je cite, l'activisme des ADEF mérite une attention particulière pour préserver la stabilité dans la région afin de permettre aux populations d'accéder de nouveau dans leur champ sans être inquiétées. Fin de citation. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Sud-Kivu, des déplacements massifs de la population sont signalés depuis plus de 2 semaines dans plusieurs agglomérations autour de Minembwe Centre dans les territoires de Fizi. Selon des sources de la société civile locale, ce mouvement est consécutif au bombardement des drones utilisés par des rebelles Twirwa Anero, appuyés par d'autres troupes étrangères. Ces informations sont corroborées par l'administrateur du territoire de Fizi, qui dresse un bilan de 50 civils tués sur cette période. Sami Badibanga explique l'usage de ces drones par des rebelles Twirwa Anero, appuyé par le Rwanda, découle des positions stratégiques qu'ils occupent dans la région. Sami Badibanga, au micro de Ronaldine Tibonera.
Ça fait plus de 3 décennies que cette souffrance continue. Cette souffrance est devenue chronique. Toutes ces morts, toutes ces atrocités commises sur les populations, les femmes violées, et les femmes décapitées, les enfants mutilés, les enfants où on a amputé les bras, où on a amputé les doigts. Nous avons les cimetières le plus long du monde. Nous avons un deuil qui est un deuil plus que national. Les cris de la population de l'Est est que la paix revienne. Et cette communauté qui a armé le Rwanda, cette communauté qui soutient le Rwanda, doit comprendre que les Congos a besoin de la paix et que la population de l'Est a besoin de la paix. Trop c'est trop, nous voulons la paix, nous voulons que cette paix nous revienne de plus droit pour que nous puissions aussi de notre tour développer notre cher pays. Nous soutenons les efforts consentis par le président de la République, chef de l'État, pour les sacrifices consentis afin que la paix revienne sur cette partie orientale de notre pays.
Dans la province de Lomami, le trafic sur la rivière Lomami est totalement à l'arrêt depuis un mois. En cause, la panne simultanée de 2 moteurs du bac Makolé, immobilisé à près de 40 km de Lubao et 160 km de Cabinda, chef-lieu de la province. Depuis, la traversée ne se fait plus qu'à bord des pirogues artisanales, exposant les passagers et les marchandises à des risques accrus. Explication avec Estan Dalafina.
Sur le site du bac Makolé, les activités économiques tournent au ralenti. Ce bac qui relie les villages du territoire de Lubao à ceux de Cabinda est un passage stratégique pour les commerçants et transporteurs. Mais depuis la défaillance de 2 moteurs du bac, le trafic est suspendu. Les cargaisons parfois de plusieurs tonnes s'entassent sur la rive, faute de moyens sûrs pour les transborder. L'office des routes reconnaît que le moteur était vétuste et ne pouvait plus assurer la navigation. L'institution affirme avoir transmis un devis pour l'achat des 2 nouveaux moteurs ainsi que la réhabilitation complète du bac aux autorités provinciales et nationales. Aucune réponse officielle n'a encore été communiquée. En attendant, la traversée de la Lomami est devenue un véritable calvaire. Les opérateurs économiques redoutent les noyades, la perte de marchandises et les accidents mortels. Les pirogues, souvent surchargées, ne sont pas adaptées au transport de lourdes cargaisons. Certains commerçants affirment que leurs produits périssables sont déjà perdus. D'autres craignent une hausse des prix dans les villages enclavés faute d'approvisionnement régulier. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Kapi.
Province du Tanganyika, les enseignants matriculés non payés des écoles du territoire de Nyunzu revendiquent leur salaire. Dans une déclaration hier samedi, ces enseignants affirment avoir été mécanisés depuis 2022 mais ne reçoivent pas de salaire. Ils sollicitent l'intervention des autorités du secteur de l'éducation pour qu'une solution soit trouvée. Le chef de la sous-division de l'enseignement Nyunzu 2 confirme que les enseignants de plusieurs écoles du territoire sont concernés par cette situation. On écoute à ce sujet Lucien Kasongo, enseignant de l'Institut Moulimba de Nyunzu, au micro de Paul Mounanga.
Ça fait déjà plusieurs années que nous sommes dans la difficulté concernant la paye de nos matricules. Nous avions été contrôlés, je pense, par son Excellence Monsieur Willy Bakonga, c'était en 2020. Et juste arrivé en 2022, au mois de février, nous avions eu les matricules. Et arrivé au mois d'avril, nous avions aussi vu certaines écoles, comme les écoles primaires surtout, qui étaient aussi mécanisées à cette période, dans la même année. Mais, chose étonnante, c'est voir au mois de juin, les écoles sorties après nous, les écoles écoles primaires, je pense que certaines écoles secondaires sont payées, mais nous nous sommes restés comme cela. Depuis 2022 jusqu'à maintenant, nous n'avions pas de solution sur notre mécanisation. Là, des fois que les contrôles viennent, nous passons en contrôle, mais on aboutit à rien. Dans des écoles, ça ne marche pas avec le minable prime de parents qu'on reçoit. C'est compliqué. C'est pourquoi nous voulons ainsi nous présenter comme des personnes sans voix pour un peu essayer avec la société civile de contacter l'hiérarchie si on peut trouver quand même une solution appropriée pour que nous puissions aussi être soutenus par le gouvernement central.
Nord Kivu, la protection de l'enfant reste un défi majeur pendant les vacances scolaires, particulièrement à Walikale, où persistent de multiples menaces sécuritaires. L'ONG Groupe d'Action pour la Protection de l'Enfance, GAP, dit avoir documenté au cours de 10 derniers jours 7 cas de noyade et 56 cas de recrutement d'enfants par des groupes armés. Selon son coordonnateur, la présence de nombreux sites minés attirant les enfants pourrait aggraver la situation. Tout en mettant en place des espaces d'encadrement dans plusieurs centres du territoire, le GAP appelle les parents et les autorités locales à renforcer la protection des enfants durant cette période. On écoute Bams Bayumba Mishiki, coordonnateur de l'organisation. Il est au micro de Bernard Denyangi.
Depuis le 28 juin, il y a 7 cas de noyade, 3 cas ici à Walikale Centre, dans la rivière Loa et Kouya. À Hombo, il y a 2 cas. À Biungu, il y a 1 cas dans la rivière Makoma. À Pinga, il y a 1 cas. Aussi, avant la clôture de l'année scolaire, le 2 juillet, nous avons enregistré au moins 56 enfants qui sont déjà intégrés. Les forces et groupes armés. Vraiment, il y a délaissement des enfants dans cette période de grandes vacances. C'est pourquoi on a songé sensibiliser le parent concernant la protection de l'enfant de la grande vacance du juillet au mois de septembre. Nous sommes en train de faire beaucoup de plaidoyers aux autorités politiques et administratives. La place des enfants, c'est à l'école et en famille. Mais ce n'est pas dans les sites miniers, dans les groupes armés. Puis nous avions organisé les espaces amis d'enfants à Walikale, à Hombo, à Itebero. Nous sommes en train d'occuper les enfants dans cette période ici dans le territoire de Walikale.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, 10 jours après la présentation par le Premier ministre du nouveau système électoral aux partis politiques, plusieurs organisations de la société civile ont présenté vendredi à la presse un livre blanc de la gouvernance électorale. Ce document condense des propositions en vue d'adopter un système électoral transparent.
L'invité.
Il s'agit de Ghislain Mupenzi Kamondo, directeur exécutif de Congo Agri. En partenariat avec African Coffee Connect, sa coopérative a réuni à Goma jeudi et vendredi une vingtaine de coopératives, de producteurs et d'exportateurs de café et de cacao. C'est dans le cadre de la 3e édition de la conférence et du concours de qualité Best of Congo Cooperatives. Quels sont alors les principaux défis de la promotion de ces produits sur les marchés internationaux dans un contexte marqué par l'insécurité dans l'est de la RDC? Kamondo, répond aux questions de Bernard Denyangi, une interview réalisée vendredi, jour de clôture de cet événement.
Monsieur Ghislain Kamondo, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous êtes en train de clôturer la conférence et concours de qualité café et cacao congolais, 3e édition, c'est-à-dire que cela fait suite aux deux premières éditions.
Justement, on est le 3 juillet 2026. Nous allons clôturer notre conférence Best of Congo Cooperatives 2026, qui est justement une suite de la première édition et la deuxième qui se sont passées successivement en 2024 et 2025.
Pour cette édition, quels étaient les objectifs?
Les objectifs restent les mêmes. D'abord, ce sont des échanges autour de plusieurs défis du secteur, que ce soit du café congolais, mais aussi au monde. Il y a des défis par rapport au marché, accès au financement. Vous savez que ça va faire déjà des campagnes agricoles, que les banques ici sont fermées et qu'on a du mal pour les exportations. C'est tout ce thème-là qu'on a eu à développer. On a réussi à envoyer aussi les échantillons à Londres, en Grande-Bretagne. On a envoyé aussi à Bruxelles, lors de World of Coffee, le café Best of Congo Cooperatives a été dégusté, mais aussi on est allé jusqu'en Corée du Sud, à Séoul, et aux États-Unis d'Amérique, à New York. Donc, on va devoir donner les résultats des scores de dégustation de ces différents jurys qui étaient non seulement à Goma, mais aussi dans ces différents pays, parce que au bout de 3 ans, Best of Congo Cooperatives est déjà dans 4 continents pratiquement.
Jusqu'à ce stade, quelle peut être l'évaluation de l'impact de ces conférences par rapport aux activités de production, mais aussi commercialisation de café et cacao congolais?
L'impact est très positif. collectif. On a commencé, comme je l'ai dit, en 2024. Et là, c'était seulement 10 coopératives. On avait fait Goma et Londres. C'était seulement 2 villes. L'année passée, on a pu maintenant faire aussi la dégustation au niveau des États-Unis d'Amérique, à Londres et en Corée du Sud. Et les coopératives sont passées de 10 à 20. Donc, c'était le double. Et on a facilité les ventes des Mikolo de 18 coopératives l'année passée. Et pour cette année, on est passé maintenant de 20 à 23 coopératives. Et une mention spéciale, c'est que maintenant, on a proposé aussi les cacao. Il y a 5 coopératives qui ont proposé les cacao, situation des coopératives de Beni. Alors, une autre nouveauté, c'est que on a proposé aussi d'autres méthodes de transformation du café au niveau des stations de lavage. Avant, c'était le café flogged seulement, mais cette année, on a proposé aussi du café naturel, du café anaérobique, mais aussi du café d'impact. C'est le café que nous appelons des marginalisés. C'est le café Mama Kivu, qui est un café produit par les femmes, transformé par les femmes et donc qui a été aussi commercialisé par ces noms-là. Il y a aussi des groupes de pygmées que nous avions essayé aussi d'intégrer dedans, ainsi que des jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, les femmes, ce sont des moteurs du développement, ce ne sont pas impliqués dans les secteurs du café, cacao, il y aura toujours des problèmes, mais aussi sans oublier les pygmées qui ont leur habitat naturel, la forêt, et qu'il faudrait aussi encadrer dans ces deux chaînes, parce que s'ils ont des moyens à répondre à leurs besoins, ils vont éviter de s'attaquer à la forêt.
Actuellement, comment vous pouvez évaluer la production, notre production est à hauteur de quelle quantité, par exemple, pour le café, quelle quantité pour le cacao?
Les statistiques au Congo, c'est ça le plus grand problème, parce que en réalité, l'organisme chargé de tout centraliser, c'est l'ONAPAC. Et comme vous le savez, il y a déjà bientôt 2 ans que l'ONAPAC est ici à Goma, que ce soit à Bukavu, on n'est pas opérationnel comme tel. Et ça fait que avoir les statistiques de vente, c'est un problème. Mais aussi, il n'y a pas de vente comme telle pour le moment, du fait qu'il y a certains acheteurs, surtout des grandes comme Starbucks, comme Nespresso, ils ont fui la zone. Ils disent que c'est tous les cafés du littoral. Littoral, quand on parle de littoral, c'est le Sud Kivu, autour du lac Kivu. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas acheter les cafés d'ici. Ça serait financer la guerre. Et ce sont aussi des sociétés qui sont cotées dans des bourses. Il faut aussi les comprendre. Et cela a un coup dur pour les petits producteurs. Et du coup, en tout cas, la grande partie de ces cafés est vendue par des contrebandes. Et cela ne permet pas vraiment aujourd'hui d'avoir des statistiques de production.
Alors, pour cette édition de votre conférence, les participants viennent seulement du Nord et du Sud Kivu?
Pas seulement le Nord Kivu, comme je venais de l'affirmer, parce qu'il y a aussi une coopérative d'Elitouri, de Mambasa donc, qui a aussi présenté ses échantillons. Donc, il y a 3 provinces pour le moment qui sont concernées.
Monsieur Ghislain Kamondo, merci.
Merci.
Il s'agit du directeur exécutif de la coopérative Congo Agri. Et voilà qui met fin à ce journal qui a connu l'apport de Jean-Désiré Kanyamaeli et Fin Bunga, la coordination et la supervision. Alain Goa, la mise en onde au micro, Baben Pongo Massimango. Merci à vous qui venez de nous accorder votre attention et votre temps. Bon après-midi.